Hello Mortimer! Ah, mon cher Black! Désolé d'interrompre vos vacances, Mortimer, mais ça va mal!
Nesta!
Oui, monsieur?
Faites mes bagages!
Bien, monsieur!
Mais capitaine, vous n'allez pas...
Inutile d'insister, je lève l'ancre!
Corne debout! La barre à bâbord, tout! Paré à virer!
Alix, laisse ton bouclier, viens!
Vite! Les gladiateurs gagnent sur nous!
Captivant!
Allô?
Commandant Moran?
Oui?
Mon lieutenant, vous me laissez faire équipe avec Tanguy, s'il vous plaît?
Accordez la verdure,
ah,
vous parlez avec Tanguy.
Captivant. Le magazine de la bande dessinée.
Voici Raskar Kapak, celui qui déchaîne le feu du ciel.
Captivant.
Premier, Michel Vaillant, sur Vaillant numéro 10.
Captivant, une émission de Marc Dacier.
Je bois le restant de ma gourde de potion magique. Et on y va.
L'histoire de l'aviation pourrait symboliquement débuter avec le vol d'Icare, mais il faut attendre le 17 décembre 1903 pour voir le décollage du premier engin plus lourd que l'air, 12 décennies après le premier vol du ballon des frères Montgolfier. L'épopée des pionniers de l'aviation, les batailles aériennes des deux guerres mondiales ou encore les exploits des premiers pilotes de l'aviation civile ont beaucoup inspiré les auteurs de bandes dessinées qui ont bien compris le potentiel héroïque que recèle un personnage d'aviateur. C'est ce que nous allons constater ce soir dans cette émission spéciale réalisée par Christian et entièrement consacrée à l'histoire de l'aviation vue par la BD.
Sapristi ! Si je n'avais pas trouvé cet avion providentiel à la sortie de la ville, j'avais aucune idée de la direction que j'ai prise. Aïe ! Un avion au-dessus de nous qui nous mitraille. Essayons le coup classique. Laissons-nous tomber au-dessus des nuages. Ah, et plus d'essence. C'est la jungle en bas. Bilou ! Attention à la secousse!
Des hélices, Astrojet, Whisper Jet, Clipper Jet Turbo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie qui a pris l'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir. Alors j'ai parti sur Québec Air, France World, Nord East, Eastern, Western, puis Pan American. Mais j'ai pu où j'suis rendu. Au soleil bleu, blanc, rouge, les palmiers et les cocotiers glacés. Dans les bois, nos esquimaux bronzés qui tricotent des ceintures fléchées par-ci. Et toujours ma Sophie qui venait de partir sur Québec Air, Transworld, Nord East, Eastern, Western, puis Pan American. Mais j'sais plus où j'suis rendu. Y avait même une compagnie qui engageait des pigeons qui volaient en dedans et qui faisaient le ballon pour la tenir dans le vent. C'était absolument très salissant. Alors j'suis parti sur Québec Air, Transworld, Nord East, Eastern, Western, puis Pan American. Mais j'sais plus où j'suis rendu. Ma Sophie Sophie à moi a pris une compagnie qui volait sur des tapis de Turquie. C'est plus parti. Et moi, à propos, et moi, je suis rendu à dos de chameau. Je préfère mon Québec Air, Transworld, Nord East, Eastern, Western, be Pan-American, mais j'ai pu. En parachute.
Chris.
Et j'ai retrouvé ma Sophie.
Chris.
Elle était dans mon lit.
Chris.
Avec mon meilleur ami.
Chris.
Et surtout mon pot de biscuits. À l'érable que j'avais ramassé. Hey, hey. Sur Québec Air, Transworld, Nord East, Eastern, Western. Keep on American.
Ce soir sur RVE Captivant s'intéresse à la façon dont la bande dessinée raconte l'histoire de l'aviation. On admet généralement que les frères Wright sont les pères de l'aviation. Ces deux Américains expérimentent leur avion, le Flyer, dans les dunes de Kitty Hawk le 17 décembre 1903. Chacun des deux inventeurs vole après avoir tiré au sort celui qui aurait le privilège d'inaugurer leur appareil. Le premier, Orville, vole sur 39 mètres pendant 12 secondes. C'est le premier vol d'un plus lourd que l'air. Cette fabuleuse épopée est illustrée par Marcel Uderzo en 2005 dans un bel album intitulé « Les frères Wright » et paru aux éditions du Lombard dans la collection « Beagles raconte ». Pendant la décennie qui suit le premier vol des Wright, les machines volantes ne cessent de se perfectionner. Henry Farman, parcourant le 30 octobre 1908 les 27 km qui séparent le petit village de Bouy de la ville de Reims, effectue à bord d'un aéroplane voisin le premier voyage aérien de l'histoire mondiale de l'aviation. En août 1909 est organisé le premier meeting international d'aviation de l'histoire à Reims. Les plus grands pilotes de l'époque sont là, Louis Blériot, Louis Pollan, Glenn Curtis, ainsi qu'un million de spectateurs. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914, avions et pilotes pionniers sont réquisitionnés pour des missions de reconnaissance. Cibles des deux camps au sol, ils sont décimés. Les grandes nations se dotent très vite d'une aviation militaire où les avions se spécialisent. Reconnaissance, chasseurs, bombardiers, le parachute fait son apparition, au sol on construit des aérodromes et l'avion est fabriqué en série. L'aviateur français Roland Garros, qui fut en 1913 le premier à réussir la traversée de la Méditerranée, est l'un des héros de la Grande Guerre et tombe en combat aérien en 1918. C'est ce que l'on découvre dans une biographie superbement dessinée par Marcel Uderzo en 1992, intitulée tout simplement Roland Garros et disponible aux éditions du Lombard. L'héroïsme des aviateurs de la Première Guerre mondiale est également mis en scène dans Quintette, une saga historique et romantique imaginée par le scénariste Franck Giroux pour Dupuis et qui a pour décor une base aérienne française de la zone neutre de Macédoine. L'entre-deux-guerres est la période des héros de l'aviation, ces fameux fous volants sur leurs drôles de machines. En 1927, alors que deux Français, Nungesser et Colly, viennent de disparaître en tentant de franchir l'Atlantique, l'aviateur américain Charles Lindbergh réussit la traversée océanique sur son monoplan, le Spirit of St. Louis. Parti de New York, il atterrit au Bourget 33 heures plus tard. Lindbergh vient de réussir la plus glorieuse des pages de l'histoire de l'aviation, qui sera racontée par Laverdure et Bergès dans un album de la collection Beagles raconte aux éditions du Lombard. Dès 1918, les pays sortant de la guerre cherchent à adapter leurs plus gros avions militaires au transport civil, et notamment au transport du courrier. Le français Pierre Latécoère établit à Toulouse la première base de l'aéropostale. Il réunit des hommes forts, anciens pilotes de guerre habitués à défier la mort, et des avions de la Première Guerre mondiale avec pour but de transporter le courrier entre la France, l'Espagne, le Maroc et l'Afrique noire, puis l'Amérique du Sud. Pour transporter le courrier de Toulouse à Santiago du Chili en 1930, le pilote français Jean Mermoz traverse l'Atlantique Sud en 5 jours. Un exploit raconté en 1954 dans un album de bande dessinée signé Jean-Michel Charlier et Victor Hubinon. Cette biographie au suspense soutenu, même dans une histoire vraie, Charlier sait tenir ses lecteurs en haleine, est un modèle du genre. Un autre héros de l'aéropostale, par ailleurs écrivain célèbre, a inspiré les auteurs de BD, Saint-Exupéry. La Verdure et Durand ont signé sa biographie dessinée pour Le Lombard et Hugo Pratt lui a consacré son dernier album intitulé « Le dernier vol de Saint-Exupéry » est paru chez Casterman. Les pilotes de l'entre-deux-guerres que l'on retrouve dans la bande dessinée n'ont pas tous réellement existé. Nombre d'entre eux sont des personnages de fiction. Les anges d'acier créés par Mora et De La Fuente en 1983 dans Pilote sont des aventuriers volants de l'entre-deux-guerres. Ils participent à des coups d'État, combattent au Japon en 1937, livrent des armes en Abyssinie. La série Thunderhawk, lancée par François Cortegiani et Colin Wilson en 1992, se déroule au Texas dans les années 20. Contraints de rejoindre l'escadrille des Texas Rangers, deux as de l'aviation au passé douteux patrouillent le long de la frontière américano-mexicaine, traquant les hommes de la mafia ou encore les triades chinoises. Le premier héros de Corbeyran et Guérino, les créateurs du Chant des Striges, se nomme Arthur de la Gravière. Dans la série L'As de Pique, lancée en 1994 chez Dargo, cet ancien pilote de la Grande Guerre partage son temps entre les acrobaties aériennes et les réceptions dans son château de Saint-Émilion. Accompagné par son ami Marcus, il lutte contre de dangereux espions ou sert de doublure à Clark Gable à Hollywood.
With pain. Looking in my own eyes. Ils sont fous, ces Romains.
Marc Dacier.
Comment la bande dessinée illustre-t-elle l'histoire de l'aviation ? C'est la question à laquelle nous répondons ce soir dans une émission spéciale. En 1940, l'Allemagne d'Adolf Hitler déclenche sa guerre éclair contre l'Europe de l'Ouest. La Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, perd de nombreux appareils dans le ciel français. À ce sujet, le mythe des 1000 victoires françaises a longtemps tenu, avant d'être battu en brèche à la fin des années 90. En fait, les pilotes français et britanniques doivent se partager entre 800 et 850 victoires. Quoi qu'il en soit, les Allemands perdent beaucoup plus d'appareils que les Alliés, environ 500 victoires pour les Allemands. Cependant, ils s'assurent la maîtrise des airs. Ceci est raconté dans un album de Chauvin, disponible aux éditions du Lombard et intitulé « La bataille de France ». Après avoir régné sur le ciel européen de 1939 à juin 1940, la Luftwaffe marque le pas de juin 1940 à 1941 et on assiste à un rééquilibrage des forces aériennes. À partir du 8 juillet 1940, le ciel britannique est le témoin de la plus importante bataille aérienne de l'histoire jusqu'alors, la bataille d'Angleterre. Celle-ci s'achève le 30 septembre 1940 par le bombardement de Londres. La Luftwaffe a perdu 1733 avions contre 915 à la RAF, l'armée de l'air britannique. Ces événements sont racontés dans un album paru au Lombard, signé Chauvin et Uderzo et intitulé tout simplement « La bataille d'Angleterre ». La bande dessinée britannique crée en 1956 un lieutenant-colonel de la RAF dont la popularité sera immense, Butler Britton. Ce sont le scénariste Butterworth et le dessinateur Campion qui imaginent dans le magazine Sun les aventures de Butler Britton, un pilote qui répond toujours présent lorsqu'il s'agit d'effectuer une mission dangereuse proposée par l'amirauté. Mais la Seconde Guerre mondiale se déroule aussi en Asie. Dans la série Les Tigres volants, lancée chez Soleil en 1994, le dessinateur Félix Molinari propose les exploits des pilotes volontaires américains ayant combattu sous les couleurs nationalistes chinoises en 1941 et 1942. La course à la technologie a lieu tout au long de la guerre et les derniers modèles produits sont tout simplement des avions à réaction qui volent à une vitesse inimaginable jusqu'alors. La Seconde Guerre mondiale est le berceau du réacteur et donc de l'aviation moderne.
Alerte à tous les chasseurs!
Mortimer! Écoutez!
Alerte à tous les chasseurs! Le Golden Rocket vient d'être signalé, direction est-sud-est! Ordre à tous les chasseurs! Ordre de l'intercepter! Je répète, le Golden Rocket vient d'être...
Nous sommes repérés! Tous à vos postes de combat!
Paris, capitaine!
Ils vont certainement attaquer aux fusées électromagnétiques! À mon signal, vous mettrez l'émetteur de brouillage en action, Mortimer!
Émetteur brouillage, paré!
Et voilà! Ils lâchent les fusées! Go! Regardez! Regardez, les fusées sont déviées! Elles repartent vers les chasseurs!
Chasseurs stratosphériques à l'arrière!
Ah, ils sont trop nombreux! Je vais essayer d'atteindre les nuages!
Une fois la Seconde Guerre mondiale terminée, les pilotes vont devoir se reconvertir dans le civil. Johnny Hazard, imaginé en 1944 par l'américain Frank Robbins pour le King Feature Syndicate, crée une petite compagnie de transport aérien. Il évolue dans le sud-est asiatique, plus particulièrement dans la région de Rangoon, et lutte contre les trafiquants, les tyrans, mais croise aussi de jolies femmes qui se révèlent souvent plus coriaces que bien des gangsters. Johnny Hazard possède sa planche dominicale et son trip quotidien jusqu'en 1977. Après sa démobilisation, Steve Canyon, le pilote imaginé en 1947 par le grand Milton Caniff pour le Field Newspaper Syndicate, crée lui aussi une agence de transport aérien baptisée Horizon Unlimited. Au fil des missions qui lui sont confiées, il lutte contre les trafiquants, combat les malfaiteurs qui hantent le sud-est asiatique et le Proche-Orient où se déroule la plupart de ses aventures. La saga de Steve Canyon prend fin avec le décès de Milton Caniff en 1988. Adler, créé par le regretté René Stern en 1985 pour le Lombard, est un ancien pilote de guerre allemand qui, écœuré par la guerre, a déserté en 1942 de la Luftwaffe. À New Delhi, il devient pilote de la compagnie Air Freight. Adler, qui veut oublier la guerre passée, est sans cesse rattrapé par celle-ci. Au cœur de la jungle, des visages, des images ressurgissent, l'entraînant dans de dramatiques aventures. C'est avec une série de nouvelles écrites par le capitaine William Earl Jones, publiée à partir de 1932 dans Popular Flying, que le personnage de Biggles fait ses premiers pas. Commandeur héroïque de la RAF pendant la Seconde Guerre mondiale, Biggles devient, avec le retour de la paix, le chef d'un service secret de la police de l'air britannique. En 1960, Ron Hambleton est le premier à dessiner Biggles dans les pages de TV Express. Le personnage fait son apparition dans la BD franco-belge 30 ans plus tard, sous le crayon de Francis Bergès. Depuis, la série a été reprise par le scénariste Michel Oleff et le dessinateur Eric Lout. Écoutons Michel Oleff nous expliquer pourquoi il situe ses scénarios dans les années 50.
Parce que la guerre n'est pas loin, il y a encore des avions à hélice, il y a encore, nous vivons encore dans la période un peu trouble de l'après-conflit, il y a la guerre froide qui se dessine, ça nous paraissait une période intéressante à exploiter.
Alors Michel Oleff, est-ce que vous adaptez les romans de Jones ou est-ce que ce sont des scénarios originaux ?
Ce sont des scénarios originaux. J'ai demandé aux héritiers de Jones de pouvoir créer mes histoires à moi pour deux raisons essentiellement. D'abord, c'est plus gratifiant, me semble-t-il, sur le plan créatif. Et ensuite, parce que les romans de Jones, bien que ce soit des romans d'aviation, ne sont pas toujours des romans qui donnent une place très large aux avions. Il y a des histoires qui se passent, des histoires d'espionnage qui se passent à terre. Il y a toujours un avion quelque part, mais peut-être pas autant que nous voudrions en mettre dans les histoires, et certainement pas autant que notre public en réclame. Parce que nous avons un public d'amateurs d'avions qui aiment bien voir certains modèles évoluer, etc. etc. Donc c'est la raison pour laquelle je crée moi-même les histoires que nous illustrons.
Toute la nuit, et j'ai chanté pour celle qui m'a pas cru toute la nuit. Et même si je peux pas m'envoler, j'irai jusqu'au bout. Ah oui, je veux jouer. Même sans les atouts, tu fais semblant et de regarder ailleurs. Tu dis même que je te fais peur. Pourtant tu sais je tiens plus debout, si crevé qu'un danseur. Grande nuit blanche, grande nuit d'orage. Le tonnerre gronde, mais y'a pas d'éclair, pas d'éclair.
RVE sur 103.7.
Captivant, le magazine de la bande dessinée s'interroge ce soir sur la façon dont les scénaristes et les dessinateurs ont illustré l'histoire de l'aviation. Lorsque, à partir de la Seconde Guerre mondiale, les avions ont commencé à atteindre de grandes vitesses, les ingénieurs et pilotes se sont sérieusement demandé si l'on pourrait jamais atteindre et dépasser la vitesse du son, environ 1200 km/h. Lorsque les avions approchent la vitesse du son, les vibrations deviennent telles que le pilote perd parfois le contrôle de son appareil. Il est arrivé que l'avion se disloque en plein vol. Les ingénieurs comprennent rapidement que l'ennemi invisible n'est autre que l'air lui-même. Et le 14 octobre 1947, le pilote américain Chuck Yeager, à bord du Bell XS-1, atteint la vitesse de Mach 1,06, 1297 km/h. Une nouvelle époque de l'aéronautique débute, celle des vols supersoniques. C'est dans ce contexte que le journal Tintin s'offre un pilote d'essai, Dan Cooper. Son créateur, Albert Weinberg, nous racontait en 2004 les circonstances de la naissance de Dan Cooper, 50 ans plus tôt.
Oh bien, je crois qu'il y a eu une demande pour une série Aviation. Et puis, puisque j'aimais beaucoup le Canada, j'en ai fait un Canadien. Donc c'est assez simple l'origine. Donc c'est en fait la maison d'édition qui voulait avoir une série Aviation. Je pense que c'était pour, disons, pas pour contrebalancer, mais pour avoir à peu près un même programme que celui de la maison Dupuis.
Oui, qui avait Buck Danny. Dan Cooper, c'est une série qui a eu beaucoup de succès depuis presque 50 ans. L'intégrale marche très très fort, il paraît.
Oui, le numéro 1, par exemple, a été déjà réédité 3 fois parce qu'il y a une forte demande qui a surpris, les éditeurs. Voilà. Peut-être aussi parce qu'il y avait ma photo lorsque j'étais jeune et beau.
Ça doit être ça. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot des adaptations en feuilleton radiophonique qui avaient été réalisées par Jean Morel à partir du Triangle Bleu, du Mur du Silence ?
D'une part, il y a eu des disques, je crois, sur 4 histoires de Dan Cooper. Mais peut-être ce qu'on ignore moins, c'est qu'il y a eu un feuilleton radio que j'ai créé évidemment pour la radio et qui est passé pendant 1 mois et demi. Sur les ondes, je crois que c'est passé dans certains pays d'Afrique, et puis en Belgique, entre autres, et puis dans d'autres pays francophones, je ne sais pas lesquels.
Tiens, des turbulences à l'arrière. Violentes oscillations longitudinales. Je me mets en palier. Vitesse réduite à 1500, 1300, altitude 12000. J'amorce un piqué. L'appareil se met en vrille, je ne peux pas redresser. Je ne suis plus maître des commandes. Ouvert, frein de piqué, frein intrados. Aucun effet, stabilisateur bloqué.
Rien que ça fait parachute de queue.
Un choc terrible, le parachute a lâché, je tombe.
Dan, tu m'entends? Je remets en marche les moteurs fusées, tente la chance.
Compris. Fusée en marche, la terre monte vers moi à toute allure, vitesse 1800, 2000 km/h, 2200. Hourra! Je suis sorti de la vrille, je peux redresser.
Et l'aviation militaire? Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les avions n'ont fait qu'évoluer en rapidité, puissance et armement, mais aussi en discrétion. Parmi les appareils les plus célèbres, citons le Blackbird SR-71, un avion américain de reconnaissance constitué d'un alliage de titane dont le prototype vole pour la première fois en 1964, le MiG-29, avion de chasse soviétique entré en service dans les années 80 et conçu pour évoluer de nuit et par tous les temps, le Nighthawk, un bombardier furtif dont les matériaux et la silhouette renvoient un écho radar semblable à celui d'une mouette, le rendant quasiment indétectable, ou encore le Rafale, le dernier avion du constructeur Dassault en service en 2001, réputé pour sa grande manœuvrabilité. Tous ces appareils et bien d'autres ont des rôles majeurs dans les grandes séries consacrées à l'aviation militaire depuis la création de Buck Danny dans Spirou en 1946. Imaginé par Jean-Michel Charlier et Victor Hubinon, repris après le décès de ceux-ci par Francis Bergès, Buck Danny et ses acolytes Tumbler et Sonny Tucson sont pilotes dans l'US Navy, la marine des États-Unis. Ce trio permet à ses lecteurs de suivre l'étonnante évolution de l'aviation au cours d'aventures palpitantes où réalité et fiction se confondent. Lancé dans Pilote en 1959 par Charlier et le dessinateur Albert Uderzo, Michel Tanguy, brun, sérieux et séduisant, et son copain Ernest Laverdure, blond coureur de jupons et gaffeur, sont 2 jeunes pilotes fraîchement sortis de l'école de l'air française. Ils intègrent la prestigieuse escadrille des Cigognes de Dijon, volent sur Mirage 3 et traquent les espions sous tous les cieux de la planète, risquant leur vie pour leur pays.
Hé hey Michel ! Michel, c'est ton radariste qui te parle, si tu te souviens. Je m'appelle Laverdure et je suis à 30 cm derrière toi.
Ah oui, oui, il me semble me souvenir de ce nom-là. Alors, qu'est-ce que tu as vu ?
Eh ben, j'ai un écho lumineux sur mon écran radar. Il y a un zinc en vol tout près d'ici.
Un zinc ? Pas possible, mon vieux, aucun avion ne s'est signalé dans le secteur. Essaie de le localiser ou alerte la base.
Oh, minute, papa, hein. Inutile de nous couvrir de ridicule, si tu veux bien. Pour l'instant, l'écho lumineux est intermittent. Il apparaît et disparaît comme s'il jouait à cache-cache avec la montagne. Oh, tiens, tiens, le voilà à nouveau. Allez, vas-y, prends le cap 235.
Roger.
Les chevaliers du ciel, dans un bruit de tonnerre, à 2 pas du soleil, vont chercher la lumière. Moitié ange et moitié démon, mauvaise tête, mais gentil garçon. Ils ne savent ni le bien ni le mal, car ils ne pensent qu'à leur idéal. Et si l'amour vient à passer, c'est l'amitié qui gagne toujours. Les vrai chevalier du ciel. Parfois pense à ce jour où ils verront leurs ailes se plier pour toujours. Courage malgré leur détresse, ils auront l'éternelle jeunesse. La jeunesse qui n'appartient qu'à ceux qui regardent le ciel dans les yeux. Les chevaliers du ciel, dans un bruit de tonnerre, à deux pas du soleil, vont chercher la lumière.
Captivant,
captivant, captivant, captivant.
Mille milliards de mille millions de mille chevaux.
Marc Dacier.
La façon dont la bande dessinée illustre l'histoire de l'aviation est le thème de l'émission de ce soir. Le premier succès d'un avion de ligne à cabine pressurisée fut connu par le Constellation. Il annonçait l'arrivée d'une ère nouvelle, le transport aérien confortable et sûr. Le Constellation est reconnu comme le plus bel avion à hélice jamais construit. Ce long courrier né après la Seconde Guerre mondiale pouvait rallier New York à Los Angeles sans escale à une vitesse de 450 km/h avec 40 passagers. Une fois résolu le problème de la pressurisation dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, et une fois les avions civils équipés de réacteurs, l'aviation commerciale prend son essor. Une révolution est en marche, on peut désormais rêver d'une aviation accessible à tout le monde, ou presque. Dans ce contexte de développement du transport aérien, les jeunes filles rêvent presque toutes de devenir hôtesses de l'air. Cela peut paraître surprenant aujourd'hui, mais ce métier était très glamour, ce qui explique le nombre étonnant d'héroïnes de bande dessinée qu'il exerce. Angela, dessinée par Dudley Pout de 1958 à 1964 dans l'hebdo anglais Girl, est une blonde et jolie hôtesse de l'air dont chaque voyage est l'occasion de vivre des aventures à la fois dramatiques et sentimentales, où elle doit faire preuve de courage. Citons également deux hôtesses de l'air françaises, Monica, lancée par André Chéré dans le mensuel Mireille de 1961 à 1963, et Françoise, la fille aînée des Labourdais dans la série créée par Francine et Jean Graton en 1965 pour l'hebdomadaire féminin Chez Nous. Mais la plus célèbre des hôtesses de l'air de la bande dessinée est belge, il s'agit évidemment de Natacha. Blonde aux formes généreuses, Natacha est la plus jolie hôtesse de l'air de la compagnie aérienne Bardaf. Elle travaille avec son ami et confident, le steward Walter, à bord de l'avion du commandant Turbo. Et c'est toujours avec une bonne dose d'humour que la dynamique hôtesse parvient à résoudre les énigmes qui sans cesse se posent à elle. Écoutons le dessinateur surdoué François Walteri nous raconter comment il a créé Natacha en 1970, répondant en cela à une demande de son éditeur.
Depuis, vu que je faisais des pin-up, en fait, je dessinais beaucoup des nanas, et moi je voulais présenter des petits personnages comme Tiffé Tondu, Spirou et Fantasio, Tata et Milou, enfin des trucs ainsi, quoi, que j'aimais beaucoup, et que j'aime toujours bien, Gilles Jourdan, tout ça. Et alors, j'aurais bien voulu faire ce personnage-là comme ça. Il me dit, j'ai trop de gars, il me faut des filles. Maintenant, on va vers les filles. Je dis, bah oui. Alors, avec Goss, qui travaillait sur le Secret Moustache à l'époque, et il travaillait chez Peyo, on a été présentés, tous les deux, une histoire qu'on faisait ensemble, qui était, lui, le scénario, moi, le dessin. Et c'était une hôtesse de l'air. Pourquoi pas une hôtesse de l'air? C'était un métier, il fallait trouver un métier. Une journaliste, tu étais un peu éculée, il y en avait des tas... dans les garçons, que ce soit Tintin ou Ricochet, tout ça, c'est des journalistes. Alors on fait une hôtesse de l'air. Une hôtesse, pourquoi ? Ça voyage. C'était l'idée. En fait, elle pourrait être un peu à droite, à gauche, on s'en foutait. L'essentiel, c'est que ça provoquait l'aventure, quoi, sans plus. Et c'était un truc qui lui plaisait beaucoup. Alors il voit le personnage et il dit, c'est pour moi. Je l'entends encore. C'est pour moi, oui, mais en attendant. Il me dit, continuez.
Aujourd'hui, les constructeurs aéronautiques se préoccupent en priorité de la capacité, de la consommation et de la pollution sonore des appareils. Avec un nombre croissant de passagers, plus de 10% chaque année, ils pensent à un avion futur qui ressemblerait à une aile volante permettant d'installer des sièges dans une grande partie de la structure. C'est exactement le type d'avion que le regretté Yves Chaland a imaginé en 1989 dans son dernier album intitulé F-52. Les héros de Chaland, Freddy Lombard, Sweep et Dina, étaient stewards et hôtesses à bord du splendide F-52 lors de son vol inaugural. Un chef-d'œuvre édité par les Humanoïdes Associés. C'est la fin de ce numéro spécial de Captivant réalisé par Christian et consacré à l'histoire de l'aviation. On se quitte comme d'habitude avec quelques notes de jazz. Seamus Black interprétant un morceau intitulé Cloud, Nuage. Bon vol à tous et à la semaine prochaine. Thank you.
Thank you.